Bonjour, ravi de vous retrouver dans Grand Bien vous fasse. Vivre chez ses parents à 25, 30, 40 ans ou plus, c'est notre thème ce matin. D'un côté, il y a les tanguis, popularisés par le film d'Étienne Chatiliez, ceux qui repoussent le plus loin possible leur départ du nid familial de façon plus ou moins choisie. Et puis, il y a tous ceux contraints de revenir vivre chez leurs parents après une rupture, un licenciement, des difficultés économiques. C'est la génération boomerang. Tanguy ou boomerang, comment se passe la cohabitation avec les parents à un âge où l'on devrait être indépendant? Comment vit-on psychologiquement ces situations? Quelle place pour la vie affective et sexuelle? Existe-t-il des différences entre les hommes et les femmes? Toutes les catégories sociales sont-elles touchées? Nous verrons que la famille reste plus que jamais l'un des derniers filets de sécurité au sein de nos sociétés. Alors que vous soyez tanguy, boomerang ou parents accueillants, cohabitants, nous attendons vos questions par courriel grand bien vous fasse à radiofrance.com, au standard de France Inter 01 45 24 7000. Colline et Eliès attendent vos coups de fil. Et puis sur notre page Facebook, dites-nous jusqu'à quel âge vous avez habité chez vos parents et que vous inspire l'idée d'y retourner à 30, 40 ans ou plus. Et puis comme tous les jeudis, Thibaut de Saint-Maurice nous proposera sa petite philosophie de la pub et des marques.
France Inter, grand bien vous fasse, Ali Rébéi.
Oh non, Tanguy, tout ce que tu veux, mais ça non, tu peux pas me demander une chose pareille.
Maman.
Non, non, non.
Maman.
Non, non, ton père va très mal le prendre.
Je suis pas fait pour vivre seul.
Je sais pas me faire à manger, je sais pas faire le ménage. Je suis pas prêt psychologiquement. J'ai peur. Vous me manquez. Laissez-moi rentrer à la maison, sinon je vais rater ma thèse. J'ai tout raté. Je vais mourir, maman. Maman ?
Oui, oui, mon chien, je suis là une seconde. Il dit qu'il va mourir.
C'est moi.
Tu as raté l'ouverture des conneries !
Un extrait de Tanguy d'Étienne Chatiliez en 2001. Et ce matin, pour évoquer les Tanguy qui restent tard chez leurs parents et les boomerangs qui sont contraints d'y retourner après avoir vécu une existence indépendante, Jean-François Marmion, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes rédacteur en chef du Cercle Psy, un numéro en kiosque avec à la une, supporter sa famille, supporter dans les deux sens du terme.
Non, dans un seul, c'est déjà pas mal. On fera, je pense, un autre sujet sur supporter au sens d'aider sa famille, aider le conjoint malade ou les enfants, etc. Mais là, il y avait déjà beaucoup à dire avec supporter au sens de faire avec.
Bonjour Sarah Chiche.
Bonjour Ali.
Vous êtes psychanalyste et psychologue clinicienne et vous signez dans le Cercle Psy un papier consacré aux tanguis et aux boomerangs. Bonjour Sébastien Dupont.
Bonjour.
Vous êtes psychologue et thérapeute familial et vous publiez La famille aujourd'hui aux éditions Sciences Humaines. Et nous attendons Serge Guérin, l'un des experts éclairés de l'émission, sociologue spécialiste des relations entre les générations. Jean-François Marmion, les tanguis et les boomerangs, ce sont des inventions médiatiques ou bien des catégories qui ont une réalité en sciences humaines?
Alors ce sont des inventions médiatiques si on parle des termes. Évidemment, Tanguy, c'est en référence au film d'Étienne Chatiliez dont on vient d'entendre un extrait. Et puis boomerang, c'est très évocateur. Donc ça explique la bonne fortune de ces termes, mais ça désigne des réalités bien concrètes, puisque je crois qu'il y a près de 500 000 personnes qui ont à peu près une trentaine d'années et qui vivent encore chez leurs parents. Donc ça, c'est pas une invention des médias, c'est une réalité. Après, ça devient une catégorie à partir du moment où les sciences humaines décident de s'y intéresser.
Alors Tanguy, c'est un film sorti en 2001 qui mettait en scène un jeune bourgeois de 27 ans qui ne souhaitait pas quitter le milieu familial. Est-ce qu'il s'agit encore d'une réalité sociologique en 2017, Sébastien Dupont ?
Moi, je dirais que le film Tanguy a plutôt donné une image faussée de ce phénomène, puisque les jeunes adultes d'aujourd'hui voudraient souvent partir, mais ils ne peuvent pas, alors que le film laisse entendre que les jeunes ne veulent pas alors qu'ils pourraient. C'est doublement trompeur, parce que aujourd'hui, les jeunes des milieux favorisés, comme l'est le personnage de Tanguy, sont ceux qui partent le plus tôt sociologiquement, là où les jeunes de milieux défavorisés sont souvent en mal de ressources pour pouvoir partir. Mais par contre, le film a dit quelque chose qui est peut-être assez juste, montre quelque chose d'assez juste, c'est la difficulté en famille de parler, de préparer ce départ. Il y a beaucoup de non-dits dans ce film. Les parents n'arrivent pas à aborder ce thème avec leur jeune adulte. Et ça, par contre, c'est un phénomène qui est assez juste.
Et plusieurs études montrent que les deux tiers des 18-25 ans qui vivent chez leurs parents rêvent de quitter le cocon familial, quitte à se serrer la ceinture en vivant seul. Une enquête Opinionway pour La Massif en 2014 nous apprenait que les 18-25 ans tenaient farouchement à leur indépendance, Sarah Chiche.
Oui, mais effectivement, ce qu'on peut constater, c'est que l'autonomie et le départ de chez les parents, ça se prépare au fond dès l'enfance. Il faut essayer de faire comprendre à ses enfants que c'est pas parce qu'on les aime qu'on va être tout le temps avec eux, collé à eux. Et au fond, savoir se séparer, c'est être ni dans le collage, ni dans la rupture violente.
Alors quand on reste tard chez ses parents, ce n'est pas toujours pour des raisons matérielles. Il est parfois, comme vous le disiez, difficile de se décoller d'eux tout simplement parce qu'on se sent bien avec ses parents.
Ah, effectivement, il y a des grands adultes qui ne veulent pas du tout partir parce qu'au fond, ils ont tout à disposition. Il y a une sorte de profusion et de confort qui est offerte par le nid parental et un désir plus ou moins conscient de ne pas vouloir s'extraire de ce nid pour affronter une réalité extérieure beaucoup plus douloureuse.
Allez, que vous soyez Tanguy ou Boomerang ou parents cohabitants, nous attendons vos questions au 01 45 24 7000 et par courriel grandbienvousfasse@radiofrance.com. Et puis en fin de matinée, nous enregistrons exceptionnellement une émission consacrée aux bienfaits du silence avec le sociologue David Le Breton et l'écrivain Marc de Smet. Si vous recherchez le silence ou si vous le fuyez, racontez-nous votre rapport au silence sur notre adresse grandbienvousfasse@radiofrance.com. Allez, il est déjà temps de retrouver la petite philo de la pub et des marques de Thibaut de Saint-Maurice.
Le soleil vient de se lever.
Faudrait être fou pour dépenser plus.
Il faut bien secouer, sinon la pulpe, elle reste en bas.
Bonjour Thibaut de Saint-Maurice.
Bonjour Ali.
Plus que jamais affûté pour le marathon de Paris. Hein, ça se prépare bien.
Vous mettez la pression. Hein. C'est dans deux semaines.
Alors cette semaine, vous vous intéressez à ces marques et ces pubs qui regardent en arrière et qui jouent sur la nostalgie.
Bonne maman. L'incroyable savoir-faire de bonne maman. C'est de faire les choses simplement pour retrouver la saveur inoubliable d'une crème à la vanille faite comme à la maison. Crème à la vanille, bonne maman, c'est toi que j'aime tant.
Le plaisir des bonnes choses simples, Ali, est bonne comme à la maison. Extrait donc d'une publicité de la marque Bonne Maman qui nous replonge dans ces mercredis après-midi à la maison. Et souvenez-vous, Ali, ces sorties de classe où vous alliez chez votre grand-mère.
Ah ben oui, elle faisait du riz au lait.
Voilà, nous étions bien au chaud à la maison justement, lavés, nourris, blanchis et sans autre pression que celle de ranger sa chambre de temps en temps ou de mettre la table aussi de temps en temps. Et donc pas étonnant qu'on ait parfois du mal à quitter ce cocon ou au contraire que l'on souhaite y revenir ou du moins qu'on y pense avec nostalgie. Alors ça s'appelle le rétro-marketing, ça touche tous les secteurs, ça touche par exemple l'automobile avec la réédition de la Mini Cooper ou de la Fiat 500 il y a quelques années, le parfum aussi avec cette campagne où l'on voit Alain Delon jeune, comme nouvelle égérie de parfum au sauvage, mais aussi les réseaux sociaux avec Instagram par exemple et son logo qui représente un appareil photo vintage, ou encore la marque Zoche qui fait la promotion de ses forfaits téléphoniques à travers une fausse sitcom parodiant les sitcoms des années 80, et on pourrait continuer la liste très longuement.
Mais pourquoi ces marques font-elles ce pari de la nostalgie ?
Oui, c'est vrai que c'est pas évident, parce qu'on est plus habitué à ce que l'on nous vende du neuf ou de l'innovation, ou alors un bénéfice immédiat, une façon de s'inscrire dans l'air du temps. Alors comment comprendre que le ressort de la nostalgie puisse fonctionner ? Bien d'abord, c'est assez évident aussi, parce que c'est un puissant ressort émotionnel. La nostalgie, c'est au sens strict donc la douleur que l'on ressent à l'occasion de la remémoration du passé. Mais cette douleur, elle est assez paradoxale. Parce que, en un sens, on s'y sent bien. On y est chaud. Vous savez, on s'y replonge. Heureux qui, comme Ulysse, a fait un grand voyage, écrit du Bellay, et puis Proust, sa Madeleine et son temps perdu, Mon temps et les feuilles mortes, et même E.T. et sa planète téléphone maison. Voilà, en mobilisant donc des références de l'enfance ou de la jeunesse de leur cible, ces marques nous promettent de retrouver à travers leurs produits une sorte d'écume rassurante de ce monde d'hier que l'on a quitté sans l'avoir vraiment décidé, et ce monde qu'il est en fait impossible de revivre vraiment.
Tout dépend donc de notre rapport au temps.
Exactement, le rétro-marketing joue donc sur la nostalgie, et cette nostalgie surgit en nous comme le témoin ou l'indice de notre difficulté à vivre le présent de nos vies. Alors le grand Pascal ne disait pas autre chose dans ses pensées, écoutons-le. Nous ne nous tenons jamais au temps présent, nous anticipons l'avenir comme trop lente à venir, comme pour hâter son cours, ou nous rappelons le passé pour l'arrêter comme trop prompt, si imprudent que nous errons dans les temps qui ne sont pas nôtres et ne pensons point au seul qui nous appartient. Voilà, Pascal nous dit, nous errons dans les temps qui ne sont pas les nôtres. Alors pourquoi errons-nous ? Eh bien, dit Pascal, parce que le présent nous blesse. Nous avons donc du mal, en fait, à supporter le passage du temps, non pas parce que le temps passe et que on regrette sa fuite, mais parce que le passage du temps, en fait, nous force à vivre au présent, et que le présent de notre vie, c'est celui de la confrontation avec nous-mêmes, avec nos responsabilités, et même, dirait Pascal, avec cette conscience de la misère de notre vie et de notre condition mortelle. Bref, c'est un peu déprimant. Il nous reste alors le passé et le futur pour fuir le présent, et l'on se retrouve à vivre bercé par deux croyances simultanées mais contradictoires. C'était mieux avant, ou bien demain, ça ira mieux. surtout si l'on peut rester ou retourner à la maison.
Le regard de la psychanalyste Sarah Chiche.
Oui, je pense qu'il y a un point très important là-dedans, c'est que quand on est contraint, soit pour des raisons financières, soit pour des raisons psychologiques, à devoir rester chez ses parents ou à retourner vivre chez ses parents, il importe de respecter les espaces. C'est-à-dire que, par exemple, souvent, on voit dans ces phénomènes de Tanguy ou d'enfant boomerang une confusion totale partielle des générations. C'est-à-dire, je prends l'exemple d'une mère qui va laver le linge de son enfant parce qu'elle estime devoir rendre service à son enfant, mais faire des commentaires, par exemple, sur les culottes sales, ça arrive beaucoup plus fréquemment qu'on croit. Ou alors, des parents ou des enfants qui vont rentrer dans la salle de bain pendant que l'un ou l'autre est déjà aux toilettes. Il y a quelque chose comme ça d'une interpénétration des espaces qui, sous couvert de nostalgie et d'être bien ensemble, peut être très dommageable.
Jean-François Marmion.
Mais je pense que on parle des Tanguy ou des boomerangs sous un angle assez rieur avec la comédie d'Étienne Châtillaise ou l'idée d'une nostalgie. Mais pour beaucoup de gens, avant tout, c'est une humiliation.
On y reviendra.
C'est une humiliation. On devrait être grand. On devrait avoir pris nos responsabilités pour fonder soi-même sa propre famille. Et on reste englué dans la précédente qui ne vous a rien demandé. On se retrouve une bouche supplémentaire à nourrir. On devrait voler notre propre aile et on est chez papa, maman.
On y reviendra dans quelques instants. Merci beaucoup, Thibaut de Saint-Maurice, la petite philo de la pub et des marques. C'est tous les jeudis dans Grand Bien vous fasse, une émission préparée par Alexa Rivière et Lorraine Bess, avec l'aide de Clara Marliot, et c'est réalisé par Claire Destacan.
France Inter, Grand Bien vous fasse, Ali Rébéi.
Estimé content d'encore dégager quelques excédents. Eux sillonnent le continent de long en large, recherchent une place dans le sens de la marche. L'essence du pays échappe, l'histoire la rattrape, l'exode les happe, s'étale sur plusieurs années. Au milieu aval, la Méditerranée.
Combien de temps, d'années, c'est dans ces règlements.
Frappant nos demandes sur l'algorithme des mots en rythme pour demain, avoir avec quelle cadence ces rapports souffleurs nonchalance, va croire au boniment de devins qui disent qu'un divin calcule nos régiments, il respire comme il monte.
François Enzi Atlas Mountains qui interprétait Grand Dérèglement.
France Inter, Grand Bien vous fasse.
10h21 et on s'intéresse ce matin à ceux qui vivent chez leurs parents à 25, 30 ans, 40 ans ou plus, avec le psychologue et thérapeute familial Sébastien Dupont, la psychanalyste Sarah Chiche, le sociologue Serge Guérin qui vient d'arriver, bonjour.
Bonjour Ali.
En sueur et en vélo, c'est ça hein? Ça a été un peu compliqué. Hein?
Absolument.
Et avec le rédacteur en chef du Cercle Psy, Jean-François Marmion. Alors j'aimerais qu'on s'intéresse encore un peu aux tanguis, hein, ceux qui vivent longtemps chez leurs parents. On a vu que l'aspiration d'une grande majorité hein, des 18-25 ans était tout de même de quitter le cocon familial le plus rapidement possible. Sébastien Dupont, en France, on décohabite aux alentours de quel âge? Et quels sont les pays en Europe où l'on quitte sa famille le plus tard possible? Il est où le pays des tanguis en Europe?
Alors en France, la moyenne est de 23 ans et demi, c'est l'âge moyen. 22 ans et demi pour les filles et 24 ans et demi pour les garçons. Effectivement, en Europe, il y a de très très grandes différences. Le pays où on parle le plus tôt en moyenne, c'est la Suède, à 19 ans et demi. Et le pays où on parle le plus tard, c'est 32 ans en moyenne pour la Croatie.
32 ans, tout de même.
32 ans. Et donc, il y a des groupes de pays, on pourrait dire. Les pays où on parle le plus tôt, ce sont les pays scandinaves. Entre 19 et 21 ans, tout le monde est parti.
Danemark, Finlande, Suède.
Voilà, exactement. Les pays où on parle le plus tard, ce sont les pays du Sud ou les pays de l'ex-bloc soviétique où on part à 28 ans et plus en moyenne.
Alors l'Espagne, l'Italie, la Bulgarie, la Grèce, le Portugal, la Roumanie, la Slovénie ou encore la Slovaquie.
Voilà, exactement. Et finalement, la France se trouve un petit peu dans une position intermédiaire. Donc tout ça répond à des normes culturelles. Dans les pays du Nord, les pays protestants, on valorise plutôt la valeur autonomie et dans les pays du Sud, la valeur famille. Et on pourrait dire que la France est dans une position intermédiaire entre familialisme et individualisme. Mais alors ce qui est intéressant, c'est que la culture a un impact assez important sur la manière dont est vécue la cohabitation. Par exemple, la situation économique en Espagne ou en Italie est difficile. Donc les jeunes sont amenés à vivre plus longtemps chez leurs parents, mais du coup ils le vivent pas si mal parce que ça va en continuité avec leur culture. À l'inverse, ceux qui sont obligés à la même chose dans les pays du Nord le vivent assez mal, mais finalement ils sont aidés par les pouvoirs publics qui favorisent l'autonomie du jeune avec des allocations ou autres. Et finalement, en France, ça c'est intéressant, c'est le pays où la dépendance est le plus mal vécue. Peut-être aussi parce qu'on est dans un système un peu intermédiaire qui valorise l'autonomie, mais qui ne donne pas vraiment les conditions, les ressources de cette autonomie.
Sarah Chiche.
Oui, effectivement, ça je le constate régulièrement avec mes patients. Cette dépendance dans un pays où l'autonomie semble être devenue le maître mot est extrêmement mal vécue. Vécue non seulement par les enfants, mais vécue aussi très mal par les parents qui se disent, mais au fond, où est-ce que j'ai fait échec? Où est-ce que j'ai échoué? Qu'est-ce qui fait que j'ai pas bien élevé mon enfant pour lui permettre de devenir autonome un jour?
Serge Guérin, sociologue, je rappelle que vous avez publié La guerre des générations n'aura pas lieu.
D'ailleurs, dans cette guerre des générations qui n'a pas lieu, on voit bien que la présence et l'implication des familles qui sont souvent un ressort de solidarité extraordinaire. Mais c'est vrai qu'en même temps, en France, il y a un discours d'autonomie extrêmement fort, mais qui n'a pas du tout de suivi. Notre politique est plutôt, par exemple, par rapport aux pays du Nord, on va tout faire pour que la personne ait un revenu digne. Dans les pays du Nord, on va tout faire pour que la personne ait une activité digne qui est son levier d'autonomie. Et on n'a pas cette même représentation. Les syndicats vont faire en France qu'il faut que les gens aient... C'est toute la question du revenu universel. Il faut un revenu. Il faut des revenus qui vous donnent la dignité. Dans d'autres pays, il faut des actions qui vous permettent de conquérir votre autonomie. Et donc, on est en confrontation avec ces deux éléments-là. Et du coup, c'est beaucoup plus mal vécu, en tout cas dans le discours, que dans la réalité. Parce qu'un certain nombre de jeunes sont très contents de vivre encore chez leurs parents. D'abord parce qu'ils profitent du frigo et que tout ça, ça se passe plutôt bien. Mais on va dire, ah, ça m'embête. Et les parents peuvent être aussi assez contents parce que finalement, les gamins restent un peu plus longtemps. Mais dans la représentation, on va dire que c'est pas bien.
Bonjour Valérie.
Bonjour.
Bienvenue dans Grand Bien Vous Fasse. D'où appelez-vous ?
Merci. J'habite de la région Angevine, d'Angers.
Alors, vous avez trois enfants ?
Oui, c'est ça.
Ils sont restés longtemps à la maison ?
Un petit peu.
C'est un euphémisme ou...
Non, en fait, ce que je racontais à la jeune femme, si j'ai appelé, c'est parce que mon aîné a été baptisé Tanguy par ses frères et sœurs plus jeunes pendant quelques années.
Pourquoi ?
Parce que il était en licence, en fac, et toujours à la maison parce qu'il n'avait pas beaucoup de route à faire pour y aller, tout simplement. Et il se trouve qu'après, il est parti sur Bordeaux, et puis sur Paris, et nous n'est jamais revenu à la maison. Donc en fait, il a subi un cursus tout à fait normal, et il n'y avait aucune raison à l'époque pour le mettre dans cette case-là. Et aujourd'hui, quelques années plus tard, eh bien, nous avons toujours son petit frère et sa petite sœur à la maison.
Ils ont quel âge ?
Alors, le deuxième a 25 ans, mm-hmm. et la troisième a 23 ans, et vient juste d'avoir son diplôme d'infirmière. Voilà.
Comment ça se passe avec les deux derniers
Ben, écoutez, la cohabitation, ça a été un petit peu en dents de scie, on va dire. Mais aujourd'hui, beaucoup d'apaisement. On a eu la chance d'avoir une maison assez grande.
Avec les oiseaux derrière, on les entend d'ailleurs.
Vous les entendez, ouais, on fait le printemps. Et en fait, ça se fait de façon très harmonieuse finalement.
Est-ce que vous avez envie qu'il parte quand même assez vite ?
Alors, pas vraiment. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que mon deuxième a un léger handicap. Et d'accord. donc là, pour l'instant, on est plutôt en phase de trouver ce qui va le mieux lui convenir pour sa recherche d'autonomie. Et puis, ma troisième est en emploi précaire. Donc, ce que j'expliquais à la jeune femme, faut la laisser partir, payer un loyer, alors qu'on sait très bien qu'elle ne pourra pas forcément pour l'instant subvenir toutes ses charges, finalement, fait qu'on n'est pas spécialement pressé. Voilà.
Serge Guérin.
Bah, madame donne vraiment la caractéristique même. Il y a d'abord de l'empathie, il y a d'abord de la bienveillance, il y a d'abord aussi de la rationalité. C'est idiot de partir. Si on n'a pas vraiment besoin de partir, si on n'est pas dans la conflictualité, alors que financièrement, ça va être compliqué. Et finalement, rester un peu plus longtemps va garantir à cette jeune fille plus d'autonomie après. Elle sera plus auteur de sa vie parce qu'elle aura construit son projet, elle aura trouvé le logement par rapport à ses revenus. Et on voit bien d'ailleurs que la question des revenus, elle est centrale. Et que finalement, pour ne pas être un Tanguy, il faut être en CDI en quelque sorte. C'est Tanguy ou CDI d'une certaine manière. Une fois que je suis en CDI, j'ai plus besoin d'être un Tanguy parce que j'ai une ouverture, j'ai une construction possible de mon projet de vie.
Sarah Chiche.
Oui, je suis tout à fait d'accord. Effectivement, il n'est pas question de jeter ses enfants dehors à coups de pied. Hein. Il est question de leur offrir un attachement suffisamment sécurisé pour qu'ils puissent, le moment venu, quand financièrement, dans l'exemple d'ici, les enfants pourront partir, qu'ils puissent partir et se sentir suffisamment solide. Mais dans ces cas-là, il me semble que même quand, pour des raisons financières, les grands-enfants, les enfants déjà adultes, sont contraints à rester chez leurs parents, il me paraît important tout de même de les faire participer un petit peu financièrement aux courses, par exemple, ou aux tâches ménagères.
Valérie, est-ce que vos enfants, les deux derniers, participent aux tâches ménagères et un petit peu financièrement ?
Alors, dans leur espace chambre, on essaie. Voilà, on fait avec.
Et vous, à quel âge êtes-vous partie du foyer familial ?
Moi, je suis partie quand j'ai obtenu mon diplôme également, donc j'avais 23 ans en fait.
D'accord.
Voilà.
Merci beaucoup Valérie de nous avoir rappelé de la région angevine. Bonjour Pénélope.
Bonjour.
Vous appelez du Finistère, où exactement ?
Plougastel d'Aoulas, le pays des fraises à côté de Brest.
Alors notre sujet du jour vous inspire quelques réflexions ?
Oui, bah c'est dès le départ de l'émission, en fait. Je tiens quand même à rappeler que certes la séparation avec les parents se joue dès l'enfance, mais pour qu'il y ait séparation, il faut quand même d'abord qu'il y ait attachement. Par définition, on se sépare de quelque chose auquel on est attaché. Et ça m'évoque les théories notamment de l'attachement, dont on entend peut-être pas mal parlé en ce moment, qui soutiennent que il faut que l'enfant soit en sécurité avec ses parents, qu'il ait un lien privilégié d'attachement avec ses parents pour avoir cette sécurité qui lui permette après d'être indépendant et d'avoir une assise qui lui permette de pas avoir peur ou en tout cas d'avoir moins peur justement pour se lancer dans un monde qui peut paraître complètement effrayant. Et du coup, voilà, pour moi, c'était important de dire que oui, la séparation se joue dans l'enfance, mais c'est d'abord par l'attachement que ça se joue. Et que en plus, comme vous le disiez il y a quelques minutes, on est dans une société, je crois, qui ne favorise pas forcément l'indépendance. Et pour moi, parce qu'elle ne favorise pas forcément cet attachement premier où il faut vite se séparer de ses enfants, il faut pour être dans les extrêmes, il faut vite ne plus dormir avec eux, vite les mettre dans leur chambre, vite les mettre chez la nounou, vite s'en séparer. Et on oublie un peu que quand même l'attachement est quand même le premier, la première chose à vraiment mettre en valeur pour jouer cette séparation comme il faut par la suite. Quoi.
Réflexion très intéressante de Pénélope, Sarah Chiche.
Ah, mais je suis tout à fait d'accord avec vous, madame. Vous avez tout à fait raison d'être attachée à ces points-là, parce que précisément, la capacité à être seule quand on est un enfant, ça s'apprend en présence de ses parents. Hein, pas tout seul, jeté dans un coin de sa chambre à longueur de journée. Mais voilà, les parents font des allées et venues. Parfois, ils sont avec leur enfant et parfois, ils le laissent. Et il faut que l'enfant, on apprend, on réussit à être seul si on sait qu'on est aimé de ses parents. Et si on sait que certes, il y a des moments où ils ne sont pas là, mais qu'on va toujours finir par les retrouver.
Sébastien Dupont.
Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. Surtout que si on le prend de l'autre sens, c'est-à-dire du côté des jeunes adultes qui n'arrivent pas à partir là pour des raisons psychologiques, la plupart du temps, ce sont des jeunes adultes qui ont de mauvais rapports avec leurs parents, et souvent même peu de relations, c'est-à-dire qu'ils sont enfermés dans leur chambre, ils vivent la nuit, ils dorment le jour lorsqu'ils sont au chômage ou dans l'inactivité. On parle au Japon des jeunes hikikomori qui sont tout seuls dans leur chambre, qui ne partagent plus rien avec leurs parents. C'est ce qu'on rencontre aussi souvent dans les situations de phobie scolaire ou de phobie sociale. Donc c'est exactement l'inverse de la situation que décrivait Valérie précédemment, c'est-à-dire une situation où on a de bons rapports, mais où chacun a son espace, et où finalement le fait d'être ensemble ne pose pas tant de problèmes, certainement de la même manière que le fait de partir et de s'éloigner ne posera pas de problème.
Jean-François Marmion.
Mais je pense qu'un des problèmes auxquels sont confrontés les Tanguy, c'est qu'on les bombarde de messages contradictoires. D'un côté, on leur dit « soyez autonomes, soyez grands, quittez papa-maman ». De l'autre côté, on leur dit « attention, le monde est dangereux ». Vous n'aurez pas forcément de travail, vous n'aurez pas forcément de quoi subvenir aux besoins de la famille que vous allez fonder. Alors on fait quoi dans ces cas-là? On reste, on reste pas, on est dans une espèce d'entre-deux très très inconfortable.
Sarah Chiche.
Oui, et puis je crois qu'avec l'allongement de la durée de vie, il y a une autre question qui se pose, c'est que ces enfants qui vont rester chez leurs parents, qu'est-ce qu'ils vont faire, eux, quand leurs parents vont devenir vieux? Est-ce qu'ils vont les envoyer dans une institution? Est-ce qu'ils vont les garder à leur tour chez eux? Donc il y a un double mouvement comme ça qui crée, parce qu'il y a des aspects positifs aussi, qui peut être facteur de nouvelle solidarité entre les générations.
Serge Guérin, c'est pour vous.
Je ne peux aller que dans votre sens. C'est absolument, ces nouvelles solidarités familiales, elles se construisent aussi sur cette prise de conscience de la longévité. Et on voit d'ailleurs des allers-retours. Et des personnes qui disent, mais moi j'aide mes parents parce que qu'est-ce qu'ils m'ont aidé? Et d'autres qui disent, j'ai aidé mes enfants, mais c'est aussi parce que d'une certaine manière, ils vont m'aider ou ils m'ont aidé. Et donc il y a des solidarités qui se font. Et puis aussi, peut-être pour revenir sur ce que vous disiez, il y a aussi parfois, on bricole un petit peu, où on trouve un entre-deux. C'est-à-dire que je pars de chez mes parents, mais je pars pas si loin. On a toujours un discours, une vision comme ça, tout le monde serait dans les aéroports, tout le monde partirait à l'étranger, et ainsi de suite. Mais c'est pas vrai. 80% de la population naît, vit et meurt à 30 km de là où elle a débuté. Et une des raisons pour lesquelles les gens ne partent pas trop loin, c'est que leur solidarité familiale, elles sont dans un endroit précis. Et si je veux faire garder mes gosses plus tard, et si j'ai besoin d'une solidarité, et si j'ai besoin d'un coup de main, bah je préfère pouvoir compter sur mes parents qui sont à 5 km ou à 15 km plutôt que s'ils sont à 400 km. Donc ça participe aussi d'une sorte de bricolage social pour trouver des solidarités plus souples, plus à la carte.
Sarah Chiche.
Oui, et c'est comme ça qu'on peut observer de belles solidarités qui se créent. Par exemple, chez les Tanguy ou chez les Boomerang, il y en a qui font, entre parents et enfants, ce qu'ils n'ont pas pu faire dans l'enfance ou dans l'adolescence. Par exemple, qui vont aller au concert avec leurs parents, au cinéma avec leurs parents, ce qu'ils ne voulaient surtout pas faire quand ils étaient ados et que ça les saoulait.
Sébastien Dupont.
Oui, là, on a parlé de la question de la retraite des parents. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avec ces changements dans les âges, dans les étapes de la vie, du cycle de vie familial, il y a des étapes maintenant qui se recoupent. Par exemple, il arrive avec que les parents partent soit en retraite, alors que leurs enfants sont encore à domicile, parce qu'ils les ont eu plus tard, parce que ce sont des enfants nés d'une seconde union, etc. Ou alors, il arrive que des enfants vivent en couple à la maison pour des raisons de nécessité financière, et donc ils créent leur propre famille alors qu'ils ne sont pas encore partis de leur propre famille.
Pénélope, vous avez le mot de la fin.
Oula.
Non, si vous avez des choses à rajouter, sinon, bien, je vous souhaite une bonne journée.
écoutez, c'était à peu près tout.
Merci beaucoup, Pénélope. Merci beaucoup de nous avoir appelé du Finistère. Vous pouvez continuer à nous appeler au 01 45 24 7000 et par courriel grandbienvousfasse@radiofrance.com.
Your downstairs in the bar and her, your rolled up sleeves in your skull t-shirt. You say, why did you do it?
Amy Winehouse, à 10h39 sur France Inter.
Grand bien vous fasse sur France Inter.
Et on s'intéresse ce matin à ceux qui vivent chez leurs parents à 25 ans, 30, 40 ans ou plus, avec le psychologue et thérapeute familial Sébastien Dupont, la psychanalyste Sarah Chiche, le sociologue Serge Guérin et le rédacteur en chef du Cercle Psy, Jean-François Marmion. Justine nous écrit par courriel, maman de deux garçons de 2 et 5 ans, l'idée qu'ils puissent rester assez longtemps à la maison mais plutôt agréable. Pourquoi faudrait-il absolument que les générations vivent séparément? Nous sommes en milieu rural. Nous avons de la place. Pourquoi les vieux et les jeunes ne pourraient-ils pas vivre ensemble et se rendre des services mutuels, comme se tenir compagnie ou garder les petits-enfants? Serge Guérin.
Mais absolument, là, Justine a parfaitement raison. Ça se construit aussi comme ça, mais chacun le décidant. L'enjeu, c'est que ce ne soit pas obligatoire, ce ne soit pas contraint. Je le fais parce qu'en fin de compte, je suis bien avec ma famille, je reste dans le cercle familial. Parfois, j'habite au même endroit. Parfois, on a construit une petite maison à côté. Enfin, il y a plein de techniques. Et en fin de compte, il y a énormément de gens qui se trouvent très bien ensemble, qui se construisent des solidarités, des réciprocités, des aides. Et à certains moments, les plus âgés aident les plus jeunes. À d'autres moments, les plus jeunes aident les plus âgés. Et tout ça, ça construit une histoire familiale sur des générations et des générations.
Sébastien Dupont.
Oui, là, cette dame amène un autre aspect qui est le logement. Elle dit qu'elle est en milieu rural, qu'ils ont de la place. C'est un facteur matériel, mais qui change beaucoup de choses. Une famille qui vit dans un petit appartement avec une petite salle de bain, le jeune adulte, eh bien, peut-être qu'il a une sexualité, peut-être qu'il a une copine, peut-être que, etc., etc. Et c'est beaucoup plus difficile lorsqu'on est dans une grande maison, qu'on peut, comme dit monsieur, isoler une partie de la maison, construire autre chose, transformer sa chambre en studio, le sous-sol, les combles, etc. C'est évidemment vécu très très différemment.
Quelle place d'ailleurs pour la vie affective et sexuelle? Comment éviter la gêne et les remarques insidieuses, Sarah Chiche?
Mais je crois que quand on n'a pas nécessairement la place physique, quand on vit dans des petits espaces, il est important que ces espaces soient cloisonnés. C'est-à-dire que quand on est un enfant, on ne rentre pas dans la chambre de ses parents à tout bout de champ. Et de même, les parents ne vont pas rentrer pour un oui ou pour un non dans la chambre de leur enfant. Alors faut-il accepter, quand on est un parent, que son enfant reçoive la petite amie ou le fiancé à la maison? À mon avis, il importe une fois encore que les choses soient un minimum cloisonnées.
Sébastien Dupont.
Et c'est effectivement un gros problème dont on parle peut-être pas suffisamment. Si on fait un petit calcul théorique, entre l'âge moyen du premier rapport sexuel, 17 ans et demi, et l'âge moyen du départ de chez les parents, 23 ans et demi, il y a 6 ans. Qu'est-ce qui se passe pendant ces 6 ans? Il se passe évidemment des
choses
très différentes. Et ça se passe de manière très différente selon les familles, avec des opposés très grands. C'est-à-dire qu'il y a des familles qui n'acceptent pas même que le petit ami ou la petite amie dorme à la maison. D'autres où tout est possible, avec des remarques insidieuses, etc. Un mélange des genres, comme dirait Sarah Chiche avant. Mais ce qui est compliqué, c'est qu'il n'y a peut-être pas de guerre des générations, mais il y a parfois une incompréhension entre les générations, parce que bien souvent, la génération des parents n'a pas connu la sexualité à la maison en tant que jeune, et donc ne sait pas trop comment faire, comment délimiter les espaces, faut-il en parler, faut-il ne pas en parler, c'est parfois bien difficile.
Jean-François Marmion.
Oui, bien sûr, on parlait de nostalgie tout à l'heure, on a l'impression qu'auparavant c'était plus simple, que les gens vivaient plus volontiers ensemble, que toutes les générations cohabitaient en toute harmonie. C'est pas si vrai que ça, les gens étaient ensemble parce qu'ils n'avaient pas le choix. Tout simplement, on gardait les grands-parents à la maison parce qu'on n'avait pas le choix. Je suis pas certain que ça se passait toujours très bien, loin de là. Et par-dessus le marché, on parle d'intimité. Parfois, les gens vivaient tous dans la même pièce, séparés par un rideau. Il n'y avait pas d'intimité, il n'y avait pas de vie propre possible.
Serge Guérin.
Oui, alors là, pour aller dans ce sens-là, d'abord, en effet, la Pourquoi il n'y a pas de guerre des générations? C'est parce qu'avant, il n'y avait pas non plus nécessairement un bonheur des générations à vivre ensemble de manière obligatoire, d'une certaine façon. Et donc, une des conquêtes de la modernité, c'est d'avoir le droit justement à cette autonomie et à cette différence, à cette séparation. Autre élément juste pour le sourire, un des faits matériels très forts, ça s'appelle la voiture. Et entre 17 et 23 ans, eh bien, il y a un espace indépendant qui s'appelle l'automobile. Et il y a même des constructeurs automobiles qui ont relancé certaines marques anciennes parce que les gens plus âgés les rachetaient en se rappelant ce qu'ils avaient pu connaître dans les voitures, qui était autre chose que de la conduite.
Sarah Chiche.
Il y a un point qu'on n'a pas évoqué, c'est celui de la culpabilité des enfants qui vivent chez leurs parents et qui ne s'autorisent pas à avoir eux-mêmes une vie affective parce que leurs parents ne vont pas bien. Soit le couple parental va mal, donc du coup, ils n'osent pas partir parce que qu'est-ce qui va se passer s'ils partent? Est-ce que les parents ne vont pas se séparer? Soit dans le cas des familles monoparentales, par exemple, un jeune qui aurait tout à fait, par exemple, financièrement la possibilité de partir et qui ne le fait pas parce qu'il a une maman qui vit seule, qui est déprimée et qu'au fond, il se dit « mais qu'est-ce qu'elle va devenir? Elle va s'effondrer si jamais je pars ».
Bonjour Marie-Dominique.
Bonjour.
Vous appelez de Clermont-Ferrand. Bienvenue dans Grand Bien Vous Fasse.
Ben, merci beaucoup. Je suis dans la région de Clermont-Ferrand. J'habite un petit village, justement. J'ai entendu ce qui vient d'être dit. Effectivement, à la campagne, on a un petit peu plus d'espace, même si les lieux de vie ne sont pas forcément... Enfin, mon lieu de vie, en tout cas, n'est pas forcément vaste. Mais voilà. Alors, moi, je suis divorcée. Et... nous avons deux filles qui sont à la base très indépendantes. Elles ont quitté la maison l'une et l'autre vers 18 ans. Hein. Et on a toujours eu des enfants très indépendants qui ont passé beaucoup de temps chez les uns, chez les autres. Enfin, nous étions nous-mêmes très indépendants et je crois que c'était indispensable pour nous de fonctionner comme cela. Et
vous accueillez votre fille de 25 ans, c'est ça ?
J'ai accueilli ma fille de 25 ans qui élève seule elle-même une petite fille de 3 ans et demi. Et nous n'avions jamais eu l'idée de vivre ensemble parce que nous pensions que c'était inenvisageable. Et un jour, une amie nous a dit « Mais pourquoi vous associeriez pas vos moyens ?» Et que Rosalie ne viendrait pas vivre chez toi, Marie-Dominique. Et nous nous sommes regardés et je crois que le cœur et la raison ont dit oui, tout simplement. On a été emballés.
Et ça se passe comment ?
Par l'idée. Et donc, depuis mi-décembre, elle est là et il y a eu très rapidement la mise en route a été très fluide, ce qui semblait vouloir dire que c'était juste. Ensuite, il y a eu une énorme crise, mais vraiment avec beaucoup de mal-être chez ma fille qui venait de trouver du travail grâce au fait de vivre à la maison. Elle a trouvé du travail dans le secteur. Voilà, elle travaille dans une maison de retraite et ce sont de longues heures. Et d'un seul coup, ça l'a rendue un peu plus dépendante de moi par rapport à sa petite fille. Elle l'a très très mal vécu et j'ai entendu tout à l'heure ce mot d'humiliation vécu par les enfants. Je pense que là, elle a perdu le sens premier de notre projet qui est vraiment gagnant-gagnant, hein, sur une base d'être gagnante-gagnante toutes les deux. Et je pense que elle a des difficultés personnelles de liée à son estime d'elle-même et à la façon dont elle se regarde elle et donc la vie, qui sont remontées et qui l'ont vraiment rendue très très mal à l'aise.
Sarah Chiche, quand on a longtemps goûté à l'indépendance, retourner chez ses parents peut être ressenti comme une humiliation, comme l'évoque Marie-Dominique. Comment conserver son estime de soi quand on revient vivre chez ses parents, quand on fait partie de cette génération boomerang?
Mais je crois qu'effectivement, ça peut être vécu comme une disgrâce, surtout par rapport au regard des autres. Les autres autour de moi sont indépendants, les autres sont partis de chez leurs parents. Et moi, je réintègre le cocon familial comme ça. Il est très important, une fois encore, j'insiste un peu lourdement, que dans ce cas, pour conserver une estime de soi, on participe à minima, de façon active, aux tâches ménagères, aux courses, qu'on puisse... donner à ses parents également ce qu'on n'a pas pu leur donner plus jeune, afin de ne pas être en dette vis-à-vis d'eux. Une dette qui peut creuser la culpabilité.
Sébastien Dupont.
Oui, Marie-Dominique et Sarah Chiche amènent un sujet qui me paraît très important, qui est la différence homme-femme. Là, Sarah Chiche vient de dire que ça peut être mieux vécu si le jeune adulte participe aux tâches, participe à la vie de la maison. Et ce qu'on observe sociologiquement, c'est qu'il y a encore une répartition très grande entre les sexes, c'est-à-dire que les parents, spontanément, et les mères notamment, mettent plus à contribution les filles que les garçons, dès le plus jeune âge, et notamment à l'adolescence, ce qui fait que les jeunes femmes vivent souvent mieux le retour à la maison plus ou moins contraint que les jeunes hommes, parce que les jeunes hommes ont l'impression d'y revenir dans leur position d'enfant, à mettre les pieds sous la table, etc., lever les vêtements, ce dont on parlait tout à l'heure, alors que pour les jeunes femmes, ça va en continuité avec cette meilleure distance qu'elles avaient déjà trouvée précédemment, c'est-à-dire de devenir adultes à la maison.
Et Marie-Dominique, comment ça se passe avec votre petite fille sous votre toit, justement, alors, votre petite fille de 3 ans et demi?
Oui, alors c'est merveilleux parce que j'avais déjà un lien très très proche avec elle, beaucoup de complicité, donc elle est heureuse, elle dit toujours on est bien chez mamie. Alors, il faut savoir que cette petite fille n'a pas été reconnue par son papa, elle n'a pas pour l'instant en tout cas de lien du tout avec son papa. Donc, nous nous demandons là actuellement si elle n'est pas en train de m'associer, de m'identifier comme son papa. Et l'autre jour, elle a dit, je veux rester seule avec ma maman. Et alors que la relation est toujours très bonne, hein, je veux rester seule avec ma maman et je veux aller voir mon papa avec ma maman. Donc voilà, il y a là quelque chose d'important qui se joue. Je voulais revenir, c'est un sujet très important, donc je suppose qu'il y aura des réactions de vos invités. Mais là, je voulais revenir sur l'aspect logistique, l'aspect pratique. Et la relation est redevenue très, très fluide du fait justement de cette participation commune et très facile.
Serge donc, Guérin.
Juste, oui, on parle de famille de femmes, d'une certaine manière, et il y a aussi, dans la question du sexe, il y a aussi la question de la solidarité féminine. J'avais fait une étude où on voyait que les femmes plus âgées disaient « mais moi j'aide ma fille », parce que l'aider à garder, entre autres, son enfant, ça lui permet aussi de travailler et donc de conquérir son autonomie. Il y a donc ce raisonnement qu'on pourrait dire féministe, social, de dire « mais on va s'entraider, il y a de la solidarité, parce que ça permet à ma fille de conquérir son autonomie à travers le travail ». Donc il y a quelque chose aussi de politique au beau sens du terme, pas nécessairement de conscient, mais de ces femmes, de s'entraider entre elles.
Merci beaucoup Marie-Dominique de nous avoir appelé depuis l'Auvergne. Nous attendons vos témoignages et questions au 01 45 24 7000 et par courriel grand bien vous fasse à radiofrance.com. Oxygène, Follow the Leader.
Ali Rebbi, grand bien vous fasse, sur France Inter.
10h53 et on s'intéresse encore quelques minutes à ceux qui vivent chez leurs parents à 25, 30, 40 ans ou plus.
30 ans vivre chez ses parents encore, ouais. C'est... Pour moi, ça serait synonyme d'échec. Qu'à 30 ans, on devrait plus ou moins être stable. 30 ans, moi, ça m'arrivera pas, je pense.
Ça fait 6 mois que j'habite toute seule. Parfois, quand je rentre, bah, je me sens seule parce qu'il y a personne qui m'attend, personne qui me prépare à manger.
Sauf si vraiment, difficultés financières ou autres. Après, il y a des facilités, on paye pas le loyer, évidemment, on est un peu dans le confort.
Personne qui va me demander comment je vais et tout ça, tout ça. Et du coup, ça me manque beaucoup. Mais en même temps, je comprends que là, maintenant, il faut passer à une vie adulte.
Comme les loyers sont très chers dans Paris, ces jeunes-là, qui malheureusement ont eu des contrats courts, c'est le problème des stages.
Ah non, pour moi, c'est quand même un atout. Moi, je me sens bien avec mes parents. J'ai rien à leur reprocher.
L'indépendance, l'autonomie, la prise de liberté, ça me paraît très important quand même.
On peut pas se projeter dans la vie future professionnelle, même avoir une relation stable ou des choses comme ça, c'est pas. C'est, ils sont là au cas où, mais c'est vrai que c'est toujours mieux de s'en sortir soi-même, quoi.
Moi, je leur jette pas la pierre à ces malheureux jeunes. Heureusement qu'il y a la famille, et puis voilà.
Propos recueillis cette semaine dans les rues de Paris. Alors, selon un rapport de la Fondation Abbé Pierre, près de 700 000 personnes âgées de plus de 18 ans sont reparties vivre chez leurs parents. La moitié de ces personnes étaient âgées de plus de 25 ans. Serge Guérin, la famille, ça reste plus que jamais le filet de sécurité de base au sein de nos sociétés fragilisées.
Le famille, je vous hais, c'est famille, je vous aime et j'ai besoin de vous.
Mais c'est bien.
Ah bah, mais je fais court. Voilà. C'est la vraie sécurité sociale. La première, elle s'appelle la famille. C'est la famille bonjour sociale, c'est la famille Providence.
Bonjour Sylvie, vous appelez de Caen.
Oui, bonjour. Bah, écoutez, moi j'ai entendu tout ce que vous avez dit, mais moi j'ai un exemple un peu différent. J'ai un fils de 31 ans, je n'ai que des garçons, qui est revenu vivre à la maison parce que suite à une situation familiale compliquée, sa femme est repartie au Japon et lui est venu vivre en France depuis 2 ans et demi.
Et comment ça se passe ?
Eh bien, écoutez, moi, j'ai été obligée de lui dire au bout de 7-8 mois qu'il était à l'hôtel-restaurant et moi, je le supportais plus. Donc, je lui ai demandé de trouver une solution. Donc, il est quand même parti. Mais depuis, c'est très douloureux parce que je lui ai laissé la porte ouverte en disant « Tu viens quand tu veux ». Mais il estime qu'il a été mis à la porte de la maison. Et c'est compliqué parce qu'il ne participait à rien du tout. Il travaille, et c'est voilà. Donc, il est parti vivre chez un couple de copains qui, lui, partage le même principe que lui, c'est-à-dire c'est normal que les parents soient là et acceptent tout. Et moi, je dis non, à un moment donné, on a une vie de couple, on est encore des parents relativement jeunes, à la soixantaine, et bien, on ne peut pas supporter un enfant qui est un tanguy.
Sébastien Dupont.
Moi, je trouve que cette auditrice met bien en avant une incompréhension entre là ce jeune qui croit qu'elle ne veut plus de lui, alors qu'en fait, elle ne veut plus de lui comme ça. Et donc, c'est la difficulté de beaucoup de familles à redéfinir les relations, à vivre autrement ensemble et pas à vivre ensemble ou pas ensemble. La question n'est pas toujours ensemble ou pas ensemble, mais comment ?
Sarah Chiche.
Oui, madame, vous évoquiez le fait que votre fils précédemment avait vécu une rupture avec sa femme. Alors, hypothèse, peut-être que ça a été si traumatisant pour lui cette rupture que vivre à nouveau une rupture avec vous, c'est difficile.
Conclusion, Sylvie.
Il est toujours marié, il n'y a pas eu de rupture. Le problème, c'est qu'il ne se positionne pas. Ça fait 2 ans et demi qu'ils sont séparés entre le Japon et la France et qu'aucune décision n'est prise et qu'on ne voit pas le bout du tunnel. Donc à un moment donné, on ne peut pas garder jusqu'à ce qu'une solution soit prise.
Merci beaucoup Sylvie de nous avoir appelé de Caen. Merci beaucoup Sébastien Dupont d'être venu. Le titre de votre ouvrage, c'est La famille aujourd'hui aux éditions Sciences Humaines. Merci Sarah Chiche, merci Serge Guérin et Jean-François Marmion, rédacteur en chef du Cercle Psy en kiosque en ce moment. Avec à la une, supporter sa famille. À la technique ce matin, Lise Berger et Léo Prangère. Juste après cette émission, nous enregistrons un grand bien vous fasse consacré aux bienfaits du silence. Si vous recherchez le silence ou si vous le craignez, nous attendons vos témoignages sur grandbienvousfasse@radiofrance.com. Et je suis un peu ému parce que j'aimerais saluer le départ à la retraite de l'une des plus grandes réalisatrices de France Inter, Véronique Barnet, qui a le jazz qui coule dans ses veines et dans son âme. Véronique Barnet qui a notamment travaillé avec Jacques Pradel, Louis Bozon, Julien Delifiori et qui réalisait cette saison L'heure bleue de notre camarade Laure Adler, tous les soirs à 20h. La saison dernière dans Pop Fiction, j'ai eu la chance de travailler avec une immense professionnelle, je le pense vraiment, à la fois précise, pas du tout complaisante, sensible, bienveillante, merveilleuse avec les stagiaires. Lady Véronique, je t'embrasse, tu vas nous manquer. Je te souhaite une belle vie pour la suite. À suivre Nagui et sa bande originale.